Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Creature Shock Radio FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Les semaines paires sur Radio G 101.5, la radio FM.
Say my name.
Heisenberg.
You're goddamn right.
Et voilà, bonjour à tous. Nous sommes dans Band Geek Mafia, votre émission Infoculture. Voilà, tous les 15 jours, les semaines paires. Donc, de 19h à 20h sur Radio G 101.5. Salut Romain.
Salut. Comment vas-tu?
Eh ben, très bien. Voilà, ça fait plaisir d'être là.
Nous ne sommes que deux ce soir. Nous on embrasse les Seb.
Eh ouais, les Seb qui nous ont lâchés ce soir.
Les embrasser pour mieux revenir la prochaine fois.
Exactement. On leur fait des gros bisous.
Exactement.
Alors, ce soir, On va discuter de plein de choses qu'on aime comme d'habitude, de cinéma.
Ouais.
De
musique, pourquoi
de
pas.
De musique aussi, on aura plein de choses à dire sur la musique. Peut-être on dira un petit mot sur le prochain Geekfest qui
D'accord.
va se tenir à Angers. Bon, il a été pas mal annoncé sur Radio G, mais c'est vrai que voilà l'idée d'en dire deux, trois mots puisqu'on va y aller. On ira prendre du son, je pense que ça peut être super sympa. Et puis, de quoi va-t-on parler ? Donc il y aura peut-être aussi ouais une petite chronique polar et roman. Et voilà, et puis je pense qu'on aura pas mal de choses.
Il y a de quoi faire,
on va se faire plaisir. Alors, peut-être que tout de suite, on va se lancer une petite musique.
Avec plaisir.
Ouais.
Qu'est-ce qui te fait plaisir, dis-moi.
Alors.
On a... Qu'as-tu dans ton panier pour faire un petit clin d'œil à notre Seb, qui j'espère nous écoute. On a un petit peu de tout, là.
Alors, on va commencer tout de suite par un The Strokes. D'accord. Bon, c'est un groupe que j'aime
valeur
bien,
sûre,
je crois que
valeur sûre.
Valeur sûre. En plus, c'est un groupe qui va passer, bah je le précise, il va passer en France là donc fin août. Donc le 28 août exactement à Rock en Seine. Donc vraiment c'est rare hein, on a il y a une seule date sur en France hein. Et il faut savoir que les Strokes voilà, ils ont connu une période un peu difficile avec Julian Casablancas qui a eu quelques problèmes d'addiction. Et qu'il y en a de nombreux, et là, qui, voilà. Donc là, ils reviennent sur une tournée.
Ouais, puis qui a fait aussi d'autres choses, hein, tu sais, il est allé,
c'est ça.
Il s'est allié à un super, alors il a fait le super projet avec un groupe qui s'appelle The Void. D'ailleurs, je vous conseille, si vous connaissez pas, d'écouter ce groupe, qui est très particulier, et dont l'un des titres, c'est Where Eagles No Fly, qui est vraiment, pour moi, un des meilleurs titres que j'ai entendu de ces deux, trois dernières années, je dirais. Franchement, c'est, voilà, faut mettre le son à fond, se laisser aller, et c'est vraiment incroyable, quoi. Donc là, il revient à ses anciennes amours, aux Strokes, dont on est fan, hein, donc tout va bien, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Ouais,
voilà une
génial.
Bonne nouvelle.
Bah écoute, donc là, ils ont sorti leur sixième album en 2019, qui s'appelle The New Abnormal. Donc ils vont le tourner là, et puis j'imagine qu'ils vont reprendre plein d'autres titres phares de leur répertoire. On les attend forcément. Voilà, donc là, je vous propose. Brooklyn Bridge to Chorus, assez péchu. Vous allez voir, vous êtes bien dans Band Geek Mafia.
La radio qui fait le point.
Switch into the chorus. song, on another day, on another song, on another day, on another song, on another day.
Impeccable. Vraiment, c'était hyper agréable. Merci pour ce choix. Pablo, ça fait hyper plaisir.
Ouais, c'était cool, hein. C'est vrai que c'était sympa. Ouais, voilà. Donc, tout de suite, on va se lancer sur le cinéma.
Eh ben, si tu veux, ouais, bien sûr.
Qu'est-ce que t'en penses?
Eh ben, j'en pense que du bien. Ah, je vais, comment dire, pourquoi pas te parler des devoirs que j'ai fait récemment.
Ah, yes.
Et tu m'en diras des nouvelles en espérant que ça te donne envie d'aller au ciné.
Alors, toi, tu as vu deux films.
Tout à fait.
Et moi, j'en ai vu un.
D'accord.
Et voilà, donc du coup, on va peut-être. Ben voilà, on commence. Alors, je te donne la parole, mon cher Romain.
Eh ben, ça marche. Je vais commencer par un film français, si tu veux bien, pour démarrer. Cocorico. Alors, je suis allé voir avec Seb qui nous écoute. Donc, j'embrasse. Voilà, j'espère que tu nous entends. Oui, on est allé voir Mon Crime, le dernier Ozon, qui est sorti en mars 2023, donc vraiment récent, et qui est une comédie qui est qualifiée de comédie dramatique, policière, judiciaire. Voilà, j'ai passé un très bon moment. C'est un bon film qui casse pas non plus trois pattes à un canard. Faut pas non plus tout bouleverser pour absolument se jeter sur ce film-là. C'était pas mal. Alors, Mon Crime, de quoi ça parle? Je t'en fais un petit peu le synopsis. Je vais vous en donner quelques critiques et puis évidemment, je vous donnerai un petit peu mon sentiment en espérant, Pablo, que ça te donne envie quand même d'aller le voir, hein, parce que moi je trouve que franchement il vaut quand même le coup d'être vu. Alors, synopsis. Dans les années 30, à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice, sans le sou, et oui, c'est bien le problème, et sans talent, est accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Aidée par sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Alors, ce film, il met en scène le casting est vraiment sympathique, hein, pour pas dire très sympathique. Alors forcément, ça rend le film très agréable à suivre. Mais il met surtout en avant deux jeunes actrices. Je suis vraiment désolé si j'écorche son nom, mais Nadia Tereskevitz et Rebecca Marder, qui a le vent en poupe. C'est vrai que je la vois partout en ce moment, Rebecca Marder, et c'est justifié parce qu'elle est vraiment, elle a quelque chose, cette actrice. Et puis évidemment, mais aussi en scène d'autres acteurs, plus rompus à l'exercice, hein, qu'on connaît parfaitement bien, comme Isabelle Huppert, Lucchini, j'en oublie. Mais il y a, alors je ne sais jamais différencier lequel des deux, mais tu sais, dans Chevalier d'Aspalès, le petit, qui joue un rôle d'inspecteur qui est vraiment pas mal. Il y a aussi l'acteur dont j'ai oublié le nom, mais je te le redirai, qui est, tu sais, dans Les Déchiens, rappelle-toi, à l'époque, qui jouait l'enfant qui malheureusement se prenait souvent des baffes pour notre plus grand plaisir.
Exact.
Et qui joue aussi
François Morel et Yolande.
Exactement. Ouais. Et donc ils sont tous vraiment très bons. Mention spéciale quand même, même si l'actrice principale, donc Nadia Tereskevitz, je l'ai retenté, est très bonne dans ce rôle. Je trouve que Rebecca Marder est vraiment éblouissante. Et puis surtout, Isabelle Huppert, comme d'habitude, elle est vraiment exceptionnelle, quoi. Alors maintenant, quelques petites critiques pour voir si ça vous donne envie d'y aller. Alors, Luma, d'abord, brillamment écrit, réalisé, franchement drôle. Mon Crime laisse pourtant un arrière-goût amer. Flamboyante, défenseuse de la cause des femmes, Madeleine et Pauline sont aussi menteuses et manipulatrices. Comme si Ozon, en adoptant cette pièce de boulevard datée, voulait absolument donner des gages au camp adverse. C'est vrai que ça peut être une critique entendable parce que effectivement c'est intéressant par rapport à ce qu'on a connu sur MeToo, l'émancipation et ainsi de suite, et puis par rapport à cette époque c'était intéressant, mais c'est vrai qu'il en fait des personnages il en fait des calculatrices et c'est pas forcément toujours, c'est vrai que quand on pense que ça leur rend pas forcément service, on peut l'entendre aussi. Justement, c'est ce que dit les fiches du cinéma en disant « Faisant écho au mouvement MeToo, Mon Crime est un subtil mélange entre Potiche et Peter Van Kant, porté notamment par Nadia Tereskevitz et Rebecca Marder. François Ozon y parle brillamment de ses deux sujets de prédilection, le cinéma et les femmes, et je finis par la critique des Inrock. Le divertissement généreux qu'il nous offre est plus subversif que sa bonne tenue et sa description affichée ne le laisse augurer. » Alors, le sentiment qui prédomine en voyant ce film, c'est que c'est vraiment agréable à suivre. C'est beau. Alors, c'est beau parce que c'est bien joué, parce que les acteurs sont bons, bien évidemment, mais aussi, la mise en scène est soignée. C'est vraiment un moment agréable à passer. Les dialogues sont savoureux. C'est pas très long non plus, hein. C'est ce qui, en ce moment, est vraiment, ça change. Ça nous fait 1h40 de film. Et puis voilà, c'est à voir. Je dirais qu'on y passe un moment sans qu'on en sorte non plus absolument bouleversé. Je créditerais d'un bon 6, voire 6,5 sur 10. Okay. Pour ce premier film.
Génial. Ah ouais, carrément. Carrément. D'accord. Bah écoute, en plus, vachement dans l'actualité, un post MeToo. Super intéressant. Féministe.
Ouais, absolument, mais c'est vrai que l'histoire, c'est ça, hein, bien entendu, c'est que tu as une jeune actrice qui évidemment comme il était dans le synopsis est sans le sou, c'est-à-dire qu'en fait, elle vit carrément dans la misère, hein, elle est à deux doigts de se faire expulser de son appartement, elle vit en colocation avec son amie avocate qui d'ailleurs la défend après, et puis elle se rend à un rendez-vous professionnel avec un producteur qui essaie de la violer. Alors elle s'enfuit, mais ensuite quelques minutes après, ce producteur est assassiné. Et si tu veux, le truc, c'est que une enquête est menée, parce que officiellement, c'est la dernière personne à l'avoir rencontrée. Et alors qu'elle n'est pas celle qui a commis le meurtre, elle s'en accuse en se disant que, de toute façon, elle va pouvoir se faire acquitter par légitime défense. Et finalement, alors qu'elle était, qu'elle connaissait, un succès mitigé, mais pas du tout, même qu'elle était vraiment inconnue, sa carrière, c'est même pas qu'elle battait de l'aile, c'est qu'elle ne s'était pas encore envolée du tout. Et finalement, le fait de s'accuser de ce crime, eh bien, ça la transforme en quelque sorte en icône féministe. D'accord. Et là, elle reçoit plein de propositions, plein de rôles, et elle passe de la misère quasiment à l'opulence, au luxe, quoi. Et évidemment, sans te révéler la fin, tu devines bien ce qui va se passer. Alors, je te pose la question. Interrogation surprise.
Aïe.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle s'accuse d'un meurtre qu'elle n'a pas commis.
Elle devient célèbre.
Ouais, elle devient célèbre. Et donc, l'argent arrive alors qu'elle était pauvre. C'est important.
Tout à fait.
Donc, qu'est-ce qui veut bien se passer?
Elle va être défendue.
Elle est défendue et elle est acquittée. Mais que se passe-t-il ensuite? Elle vide comme ça, elle coule des jours aux autres. Eh ben non, malheureusement, que va-t-il se passer? La vraie personne qui a commis le meurtre, qui est une actrice jouée donc par Isabelle Huppert, magistralement, qui a commis le meurtre en réalité, elle se rend compte que cette jeune actrice qu'elle connaissait, dont elle sait qu'elle n'était pas vraiment connue avant ça, d'un coup triomphe partout et rafle tous les rôles, alors qu'elle, elle est issue, c'est une ancienne gloire si tu veux, elle est issue du cinéma muet et finalement elle a plus rien du tout, elle réclame sa part du gâteau.
Ben oui.
En gros, t'es devenue célèbre grâce à mon crime,
ouais.
Et tu te l'as approprié.
D'accord.
Donc si tu veux pas que je révèle que la vérité, je réclame mon petit pourcentage, quoi.
Il y a un drame dans le drame.
Ouais, non, mais c'est assez bien joué, c'est bien fichu et après voilà, je vais pas te révéler bien sûr à la fin ce qui il y a, voilà, mais c'est vraiment très agréable à suivre.
Génial. Bon, bah trop bien.
Ouais,
ça donne vraiment envie.
Ah bah tant mieux.
Bon, bah écoute, je te propose alors moi de vous présenter un autre film qui s'appelle La Grande Magie. La Grande Magie de Noémie Lvovsky. Ça aurait déjà du mal, Lvovsky. Comment tu dis, toi?
Moi, je disais Lvovsky, moi.
Ouais, Lvovsky, c'est
je
ça.
Prononce pas, oui.
Une fantaisie surréaliste, haute en couleurs et en chansons. Une drôlerie et à la fois drôle et nostalgique. Synopsis. France, on est en France dans les années 20. Dans un hôtel du bord de mer, un spectacle de magie distrait des clients désœuvrés. Martha, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien, Sergi Lopez, lui met entre les mains une boîte en lui disant qu'elle est à l'intérieur, que son âme est à l'intérieur. Cependant, il ne doit pas l'ouvrir sous aucun prétexte, sauf s'il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s'installe alors chez Charles. Donc, comment échapper à la réalité qui souvent nous étouffe? Peut-être en s'enfuyant, comme Martha, la femme de Charles, interprétée par Denis Podalydès, superbe interprète qui fait penser à un personnage de Molière, jaloux et craintif à l'excès. Ou alors par la mort, me direz-vous. Mais non, elle viendra bien assez tôt. Ou alors, en embarquant dans la roulotte du magicien Albert, interprété par Sergi Lopez, juste excellent, et de sa troupe, en prenant la route avec eux. Dans ce film, le spectateur reste soit extérieur au délire des personnages, c'est possible, hein. Du coup, tout lui paraîtra excessif, outrancier et foutraque. soit le spectateur se laisse entraîner, se laisse faire dans leur fantaisie, entraîner dans leur fantaisie, mais alors il plonge dans une joyeuse étrangeté. Il ira de scènes attendrissantes en propositions audacieuses. Peut-on réenchanter la réalité par l'art, notamment par le cinéma qui mêle théâtre, chanson, musique et danse? Cette grande illusion, ou grande magie, qu'est le cinéma ou l'art en général, est-ce un voile jeté sur le réel pour ne plus le voir? Mais cette illusion n'est-elle pas plus que cela? Plus qu'un simple voile masquant la réalité? Dans le film, on entend cette phrase étrange. Méfiez-vous du rêve de l'autre. Si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, alors vous êtes foutu. Fin des guillemets. C'est pourtant ce qui risque de vous arriver. Donc, attendez. Voilà, je vous mets une petite musique qui va se mettre en direct tout de suite. Donc, devons-nous alors accueillir et cultiver l'illusion pour embellir le monde? C'est le pari de la réalisatrice Noémie Lvovsky dans son film. Mais c'était déjà une des intuitions célèbres de Nietzsche quand il disait que nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Cette vérité qui nous montre le réel dans sa crudité, sa nudité froide parfois, voire sa cruauté, sa mesquinerie ou sa laideur. Contre cette dure vérité, l'art crée des illusions qui transforment la boue en or, comme disait Charles Baudelaire. Des illusions qui subliment la douleur, en beauté, des illusions qui transfigurent les petits drames du quotidien en tragédie, des illusions qui nous soulagent du poids de la bêtise humaine et nous ouvrent à la légèreté de l'humour. Certes, si la magie promise n'opère pas toujours dans le film, le jeu des acteurs est très enlevé et la musique de Feu Chatterton pétille joyeusement. Bref, le film La Grande Magie de Noémie Lvovsky, je vous invite à vraiment le voir. Alors, c'était la musique de Feu Chatterton que j'essayais.
Compagnon, c'est ça?
Compagnon.
D'accord, ok. Oui. Écoute, ça m'a donné envie de voir. Hein, et quelle note, tu le créditerais de quelle note ce film, si tu devais lui donner une petite note sur 10 comme ça?
Alors, si je devais je le mettrais facilement à... Pareil, à 6, 7... Ouais, 7.
D'accord, ok,
ouais,
ok.
Ouais, ouais, non, 7 sur 10. Ouais, ouais. Encore une fois, à condition qu'on se laisse embarquer
ouais,
dans le délire.
Hein,
c'est ça.
Croire à l'histoire.
Parce que là, je pense qu'il y a vraiment, sur les critiques, c'est assez flagrant.
D'accord.
Il y a vraiment, là, il y a ceux qui n'ont pas du tout rentré dedans. Et puis ceux qui, voilà, qui sont laissés embarquer dans le surréalisme des scènes et dans la comédie musicale.
Bon, bah, en tout cas, ça donne envie, dit comme ça.
La recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon. Pensez à moi quelquefois, plus tard, quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnon, les mauvais jours.
Bon, donc voilà, c'était La Grande Magie,
ouais,
de Noémie Lvovsky. Et écoute, Romain, tu vas nous parler d'un autre film, peut-être.
Ouais, tout à fait. Je vais l'annoncer tout de suite, de but en blanc. Moi, je pense qu'il faut tout arrêter et aller vraiment courir voir ce film. Il est incroyable. Alors, de quel film je parle? Eh ben, tout le problème est là, c'est parce que va falloir le prononcer, ce titre absolument horrible à lire, mais que j'ai trouvé excellent. Everything, Everywhere, All at Once. Bon, je le ferai pas deux fois. L'anglais, c'est pas ma spécialité.
Bravo.
Moi, je suis plus espagnol, tu le sais. Mais, okay. Vraiment, voilà, je suis comme tout le monde. Enfin, comme beaucoup, j'ai envie de dire. Je pense que je suis passé à côté au départ, et puis j'ai vu d'autres films qui étaient dont on avait parlé avec Seb d'ailleurs, Seb que l'on salue, et on salue aussi Florence qui nous écoute.
Oui, gros bisous à tous les deux.
Exactement. Donc ouais, j'avais vu d'autres films qui étaient justement qui étaient nommés hein, pour rafler des Oscars, et j'espérais qu'il fasse une vraie petite moisson. Et puis j'avais vu parmi les autres films nommés celui-ci en le connaissant pas, j'ai été assez étonné de voir que mes petits chouchous, mes petits favoris n'avaient rien attrapé, et que ce drôle de film là avec le nom très long et imprononçable avait tout attrapé. Alors j'ai eu la curiosité d'aller le voir bien sûr, et d'affronter le temps, parce que tout à l'heure je te parlais de films qui ne sont pas très longs, comme celui qu'on avait, mon crime est fait 1h40, celui-ci il est déjà à 2h20, ce qui est relativement raisonnable par rapport aux 3h, mais tu fais plus rien en dessous de 2h, 2h20 maintenant.
Mmh, c'est clair.
Et alors ce film, comment te dire, je ne sais même pas comment le pitcher, je vais t'en lire les synopsis en espérant que ça te donne une idée de ce que c'est,
ouais.
Mais c'est incroyable, c'est y a assez peu de mots pour le décrire, tellement c'est une sorte d'ovni, mais c'est génial. Vraiment, je manque de superlatifs pour dire à quel point j'ai adoré. C'est, mais vraiment sans aucun doute, une de mes meilleures expériences cinématographiques de ces dernières années. Quoi.
Sans venir le 10 sur 10 là.
Bah pas loin,
ouais.
J'irai à 9,5. J'irai à 9,5 parce que je suis exigeant, monsieur.
Ça marche.
Non, c'est vraiment incroyable. Alors je te lis le synopsis,
vas-y.
Puis je t'en toucherai 2-3 mots et quelques critiques aussi. Alors le synopsis, Evelyn Wang est à bout. Elle ne comprend plus sa famille, son travail écroule sous les impôts. Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener face à des forces obscures. Elle seule peut sauver le monde, mais aussi préserver la chose la plus précieuse, sa famille. Et vraiment, c'est plutôt bien résumé en soi. Ça commence effectivement comme ça. On a donc Evelyn Wang, c'est Michelle Yeoh qui est absolument incroyable, qu'on connaît évidemment pour différents rôles pour moi,
Tigre et Dragon
que j'aime, à Mémoire d'une Geisha aussi.
Oui, magnifique.
Par exemple.
Ouais.
Et elle est portée aussi, ce film est porté aussi par d'autres acteurs, notamment, et ça va un petit peu titiller notre nostalgie d'ancien cinéphile, Jonathan Kwan, je ne sais pas comment on le prononce, en tout cas j'ai fait du mon mieux, qui jouait 2001 dans les Indiana Jones, ou encore Data dans les Goonies.
Mais ouais, énorme.
Et qui joue son mari dans ce film.
Et oui, il a grandi depuis.
Il a grandi, ouais. Et il est très très bon. Alors, j'aime autant te dire que oui, autant lui qu'elle sont excellents, que le film a raflé tous les Oscars, et que voilà, les prix pour leurs interprétations sont tout à fait justifiés, c'est absolument incroyable. Alors, quelques critiques, et après évidemment, ce que j'en ai pensé. Et bon, moi d'habitude, tu sais, je suis comme beaucoup de monde, j'aime bien regarder les critiques avant de voir un film. Celui-ci, il se trouve que j'ai pas voulu regarder avant, j'y suis allé comme ça, sans savoir vraiment à quoi m'attendre, juste en me disant, tiens donc, j'avais la curiosité de savoir, mais quel est donc ce film qui a piqué les Oscars à mes petits films préférés. J'y allais déjà même avec un peu, tu vois, d'appréhension, et puis limite un petit peu de retenue, et j'ai été ébloui, c'est vraiment incroyable.
Oui, mais c'est vrai que, alors c'est marrant parce que moi c'est exactement l'inverse, je regarde jamais les critiques avant d'y aller, enfin bon, sauf si je l'ai entendu bien sûr annoncé ou sur une émission radio, etc.
Ouais.
Mais en général, j'aime bien avoir tout de suite mon impression. Et après, par contre, je vais les voir pour voir, comment les autres ont perçu. Est-ce que vraiment je suis à côté de la plaque c'est rigolo.
T'as raison, ouais, mais comme quoi chacun a son expérience de cinéphile.
Et là, du coup, t'y aller.
Je toute critique, absolument. Alors je vais t'en lire quelques petites choses, et puis finalement ça va faire le rebond sur ce que je vais te dire après. Alors déjà Mad Movies, parce que je trouve que ça correspond à la manière dont moi j'ai vu les choses, avec Everything Everywhere All at Once, où les idées les plus indéfendables se succèdent à un rythme effréné afin de décupler la puissance émotionnelle de l'expérience. Les Daniels ne se contentent pas d'un film somme, ils créent devant nos yeux ébahis et humides, et oui, le film Multiplication. Et c'est vrai que c'est absolument incroyable ce film. Je pense que personne n'est prêt, n'était prêt, ne sera jamais prêt à le voir. C'est absolument incroyable. Et t'as l'impression, en fait, quand tu regardes ce film, de passer dans une lessiveuse, quoi. Tu passes dans une machine à laver, t'en prends plein la vue. Tu ris, tu pleures, t'es surpris, t'es dégoûté, t'es perdu. Enfin, c'est vraiment absolument incroyable. Et finalement, c'est à l'image de la vie, quoi. Tu prends des claques, tu passes par vraiment par toutes les émotions. C'est vraiment ça te déboussole complètement et tu prends vraiment c'est jouissif quoi. Tu prends un plaisir absolument incroyable. Et franchement, j'avais comme je te disais pas connu pareille expérience cinématographique depuis une éternité quoi. D'accord. Je suis sorti en me disant waouh, mais vraiment ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas eu un sentiment pareil.
J'avais une question.
Dis-moi, je t'en prie.
Tu parlais de multivers et
ouais.
Alors est-ce qu'on sort un peu comme dans après Mulholland Drive de David Lynch, tu vois, avec ce côté où à un moment il y a eu un basculement dans une autre réalité où le rêve de l'autre et
est-ce qu'on a au départ une sorte de décor de réalité classique et puis ensuite on plonge dans l'irréel après ou dans l'expérience. Oui, c'est un peu ça en fait, c'est-à-dire qu'au départ t'as une vie tout à fait normale et ça ressemble pas du tout à un film justement où il va y avoir entre guillemets qui peut laisser penser que c'est de la science-fiction, mais en fait le film va vraiment mélanger plein de styles de films en un film. Et c'est pour ça qu'il y a un côté vraiment chose qui se démultiplie et qui fait que l'expérience est absolument incroyable. Et au début effectivement ça commence à quelque chose de tout à fait classique. Alors, je vais essayer de pas dévoiler évidemment les rouages du film et puis surtout trop en dire bien sûr, mais c'est ce qui est dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au bord du burn-out dans tous les domaines, aussi bien professionnel que familial ou autre, et voilà, elle est à bout, elle essaie de tout gérer, et évidemment quand on essaie de tout gérer d'être un peu partout, on est surtout nulle part et finalement ça ne fonctionne pas, les choses ne font qu'empirer. Et puis effectivement très peu de temps après le début du film, on va plonger alors qu'on était dans la réalité, on va plonger dans le délire complet, c'est-à-dire que imagine-toi la vie de quelqu'un d'un monsieur et madame tout le monde qui va d'un coup basculer dans un monde parallèle avec des où potentiellement elle est désignée pour sauver le monde, enfin bref c'est vraiment incroyable quoi. Et si tu veux,
oui, un côté science-fiction un petit peu.
C'est complètement ça. Bah justement, ça mêle plein de styles. Alors je vais te lire ce qu'en dit Libé. L'entreprise de série B en roue libre de Daniels fait l'expérience monstre d'un ciné. Ils appellent ça Babel Bagel. Oui, effectivement. Dans la greffe frankensteinienne exultante de Bollywood et des animés japonais, de la culture geek. Et là, quoi de mieux pour notre émission ?
C'est clair.
Du cinéma kung-fu, du non-sens et du clip. Du film d'auteur hongkongais, du jeu vidéo et des réalités virtuelles, mais la force démesurée d'Everything Everywhere est de rappeler cela, que le monde a désespérément besoin d'une comédie à sa mesure. Et c'est vrai que ce film, il est prodigieusement, sublimement foutraque. T'as l'impression que c'est un joyeux bordel désorganisé, mais en fait, toutes ces irrégularités, toutes ces bizarreries, toutes ces choses incongrues, et finalement, elles sont à l'image de la vie, quoi. Il peut tout arriver, tout peut être écrit, réécrit, modifié. Ça. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en gros, pour te pitcher un petit peu, tu as quelqu'un qui a une vie normale et on va lui dire d'un coup, écoute, elle pense que c'est la vie la plus banale, la plus chiante, la plus stressante et morose de la Terre, elle s'emmerde dans sa vie, et en fait, on vient lui dire, non mais en gros, il y a des mondes parallèles qui existent, où tu as d'autres toi, dans des milliers, millions d'univers, et le monde est menacé par quelqu'un, je vais pas en dire trop, et tu es la seule qui puisse finalement contrecarrer les plans de ce monstre en quelque sorte qui menace le monde, et elle commence à se prendre au jeu. Alors moi j'y vois énormément de clins d'œil à plein d'autres films, et du coup c'est jubilatoire pour moi parce que c'est vraiment, ça fait allusion à des films que moi j'ai trouvé qui font partie de mes films préférés.
Vas-y, je vois des quelques-uns.
Bien sûr. Alors déjà ça fait évidemment penser à Matrix parce que tu vois t'as le côté un peu fausse réalité mais
simulation.
Puis des monde parallèle, une réalité alternée, et puis aussi tu sais dans le côté, alors c'est assez drôle parce que si tu veux au départ elle n'a pas finalement d'aptitude particulière, mais en gros elle est, c'est ce que t'explique le film, tu es une sorte de point de contrôle dans un monde parallèle et tu peux en quelque sorte télécharger des aptitudes sur tes toits, comme je te disais tu as plusieurs toits, c'est très difficile à expliquer, bon sang je me rends compte, tu as plusieurs versions de toi dans d'autres mondes, et si tu veux imagine que toi tu as un Pablo dans un autre monde qui est champion de kung-fu, eh ben tu peux en réalisant certaines activités absolument absurdes transférer, télécharger en quelque sorte l'aptitude de ton double ailleurs, et puis justement te enfin faire faire de son aptitude la tienne si tu arrives à la télécharger. Alors justement, en plus, pour pouvoir les télécharger, elle est obligée de passer par des actions qui sont justement dont le but est que c'est absolument absurde et c'est vraiment hilarant, quoi.
Ah ouais.
Et ça fait penser, tu parles par exemple à Matrix, tu sais, quand il apprend des choses entre guillemets en les téléchargeant. Tu as aussi pas mal de trucs, c'est pas un joli mot pour expliquer ce que je veux dire, mais en gros pas mal de tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Tu vois le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Moi aussi, j'en suis fan. Ouais. Et donc, il y a vraiment des allusions à ça. Et je suis ravi de voir que Lobs l'a vu aussi. Donc, je sais que je ne suis pas fou. Ouais. Parce que si tu veux, dans le côté un peu machinerie, et puis justement, encore une fois, réalité parallèle. Ouais. Et puis d'ailleurs, histoire aussi d'amour entre le personnage, parce qu'il y a une histoire de famille, mais une histoire aussi d'amour. Ça m'a fait penser à ça. Il y a évidemment alors en fait, ça fait penser au Seigneur des Anneaux, parce que tu sais, le fameux œil de Sauron, qui te regarde de loin et qui ne faut pas regarder, ainsi de suite. Ouais. Là, il y a une sorte de, c'est justement un clin d'œil, et c'est assez drôle, un bagel de maléfique noir qu'il faut pas regarder. Ouais, tout à fait. Et c'est, il y a encore d'autres films.
Il y a du Quentin Dupieux aussi là-dedans, quoi. Il y a des trucs un peu.
C'est vrai qu'on peut le penser sur le côté absurde. Ouais. Et il y en a d'autres que j'oublie, mais d'autres références qui sont, qui me font penser à ce film-là et qui sont incroyables. Alors déjà, je te dis, entre Matrix, entre Gondry, ce que je venais de te citer que j'ai oublié.
Eternal Sunshine of
Spike Lee. Ouais, bien sûr. Alors, je te lis ce que dit Lopes. Ce serait la porte ouverte au grand n'importe quoi si les Daniels n'endossaient pas leur ambition épique digne de Matrix, leur folie Monty Pythonesque, leur approche bricolo-surréaliste à la Michel Gondry et leur dextérité inouïe au parcours émotionnel d'Evelyn interprété par l'époustouflante, c'est vrai qu'elle l'est, Michelle Yeoh. Et c'est ça, ce film, c'est vraiment... ça t'ouvre un catalogue absolument infini de possibilités. C'est, comme je te le dis, tu passes vraiment par... C'est pour ça le côté un petit peu lessiveuse, tu passes par toutes les émissions, les émotions, je m'en perds mes mots, c'est vrai. C'est jubilatoire ce film, il faut courir aller le voir, c'est incroyable. Je le créditerai d'un 9,5 parce que la perfection c'est difficile à atteindre et parce que la fin, je vais évidemment pas la dévoiler, je l'ai trouvé exceptionnel, mais ça aurait pu être encore différent.
D'accord.
Et c'est vraiment c'est génial, c'est du génie, j'ai rarement vu un truc pareil.
Et donc Everything Everywhere All at Once. Et du coup, dans tout ce que tu viens de dire, en fait, on comprend le titre. D'accord?
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et c'est en gros.
Partout.
En même temps.
En même temps.
C'est ça.
Dans une unité. Ouais, ouais, clairement.
En gros, on suit plusieurs choses.
Et donc, on rappelle qu'il a été oscarisé. Grave.
Il y a une pluie d'Oscars qui me semble absolument justifiée parce que c'est vraiment une expérience cinématographique au-delà d'un excellent film absolument incroyable.
Ah bah grave. Tu nous l'as super bien vendu, Romain.
Sais rien, mais en tout
et
cas,
du
moi,
coup,
je vous conseille
ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie. Je te propose une petite musique tout de suite. On se relance avec... un groupe que t'aimes bien. Tu vas nous en parler un petit peu après. Mm-hmm. Catch the Elephant.
Wow. Ça me fait plaisir.
D'accord, Catch the Elephant. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on vous propose? Il s'appelle, Shake Me Down, bien sûr.
C'est ce que
et vous êtes
film.
Bien dans Bande Geek Mafia sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point, bien sûr.
Nobody wants to do things easily. Nobody cares for footloose and fancy. This happened.
Et voilà, c'était Shake Me Down par les Cage the Elephant.
Absolument.
Alors
Cage the Elephant, alors j'en ai évidemment dans d'autres émissions j'en ai parlé parce que j'adore ce groupe, tout simplement, il fait partie de mes préférés. C'est un groupe, hein, c'est américain, dont on qualifie le style de garage rock, rock indépendant, parce qu'il y a un côté, il y avait un côté un peu garage surtout sur les premiers albums. Alors après c'est un peu plus le groupe a évolué, moins c'était, ça a été le cas, hein, finalement. Au début il y avait un petit côté rafraîchissant parce que très brouillon, il y avait ce côté un peu punk, un peu garage. Bon, punk très relatif, hein, je fais un clair de Yaseb, je sais plus quel groupe j'avais cité la dernière fois en le mettant dans punk. Tout est très relatif, hein, mon punk à moi est sans doute à un degré très
pas ouais, aussi en tout cas, punk le côté que... grunge, il ouais, est clairement absolument. Là, et le grunge c'est quand même hérité du punk, donc
ouais, voilà, ouais, non mais alors, mais pour te dire, le lien avec le grunge, c'est que la première fois que je les ai entendus, c'était à Nulle Part Ailleurs. Et j'avais trouvé, je crois que c'était Around My Head, le titre qui passait, et j'avais trouvé que ça me faisait penser à Nirvana, mais c'était dingue, c'était. Et pourtant, c'est des héritiers, il y en a eu. Hein, j'en ai déjà parlé, mais Silverchair ou autre, où on te disait ah là là, c'est les dignes les héritiers de Nirvana. Et les seuls dont j'avais trouvé que vraiment il y avait une patte, il y avait un truc qui ressemblait, c'était eux. Et du coup, je me suis évidemment intéressé à ce groupe. J'avais écouté l'album qui était l'album. Qui était celui qui était sorti et celui pourquoi il venait à l'émission finalement. En fait ils en ont fait 5 des albums. Le premier est un album éponyme en 2008, Cage the Elephant. Le deuxième, Thank You Happy Birthday, qui est mon préféré et de loin, où il y a des titres absolument incroyables comme justement Shake Me Down, celui qui vient de nous passer, mais aussi Sabretooth Tiger qui est excellente, Aberdeen qui est vraiment génial. Comment dire, Around My Head, qui était justement le titre, je pense qu'ils ont, c'était à l'époque le titre qui m'a fait découvrir le groupe et qui est génial. Et d'autres sont très bons aussi, hein, mais vraiment. Ensuite, quelques temps après, parce que c'est à peine 2 ans, c'est en général tous les 2 ans, hein, si tu regardes bien ce groupe, à part le dernier album, il y a eu 2008, après, on a
ouais,
fait 2011. Ouais, quand même. Ouais. 2013, Mélophobia, sur lequel je vous recommande, et ça changeait un peu de style déjà, c'était beaucoup moins grunge, c'était beaucoup moins péchu, mais en même temps, il y avait une énergie sympathique. La voix, on aime, on adhère ou on adhère pas à la voix de ce chanteur. Moi, j'aime bien. Et puis, il y a une jolie balade, hein. Cigarette Daydreams, par exemple, avec un clip très léché, très joli. En plus, c'est très sympa à écouter. Il y a aussi, Come a Little Closer, mais très sympa, ou Spiderhead, le premier titre de l'album, à vraiment écouter. Sympa. Ensuite, on arrive sur en 2015 avec Tell Me I'm Pretty. Avec 2-3 titres qui sont sympathiques, comme par exemple Too Late to Say Goodbye, Cold Cold Cold, ou alors Mess Around, ou Sweetie Little Jean, qui est vraiment sympathique aussi. Finalement, cet album-là, il m'avait presque plus que le précédent, mais le fait est que c'était plus le rock un peu bourrin, un peu brouillon, joyeux bordel mais sympathique. En essayant un petit peu de progresser, sans doute ont-ils conquis un nouveau public, ils ont aussi peut-être un peu perdu les premiers fans, quoi. Et puis en 2019 est sorti Social appelle ça comme... Et j'ai pas, tu vois, j'ai un peu lâché la rampe.
Okay.
Je les ai un peu laissés filer, ouais. Parce que ça ressemblait plus tout à fait à ce que j'ai aimé au départ. Ouais. Ça reste sympathique, la voix elle est reconnaissable, le style reste reconnaissable.
Ils ont glissé un peu vers la pop ou...
Ouais, je dirais ça. Je dirais ça. Alors ouais. Sans que ce soit complètement pop, il y a quand même. Mais ouais, on est assez loin de l'énergie.
Mal côté rappeux du
qui faisait un peu le charme justement. les imperfections faisaient que c'était c'était le côté brouillon, ouais, faisait que c'était quand même assez sympa. Il y avait une énergie communicative.
Et en même temps, dans le titre qu'on vient d'entendre, on sent déjà que là, il y a quand même, enfin, je trouve en
plus
même
de travail.
Ouais, c'est hyper travaillé quand même.
Ouais.
Et ouais, super.
En tout cas, à écouter, s'il y a vraiment un album dont je trouve que globalement il y a assez peu de déchets, c'est Thank You Happy Birthday de 2011. À écouter sans modération, il est vraiment très cool.
Trop bien. Écoute, moi je vais vous parler là maintenant d'une série.
Ah,
ça te va?
Ah bah avec plaisir.
Tu as vu The Fall?
Non, j'ai pas eu cette chance.
Ok. Bon bah alors écoute, je vais vous en parler un petit peu.
Ouais.
C'est parti.
Allez.
Donc en fait, c'est une série qui passe actuellement sur Netflix en trois saisons, The Fall 2013-2016, créée par Alan Corbett. Un thriller sur l'intimité, un thriller où l'on suit pas à pas un tueur en série et l'inspectrice chargée de l'arrêter, captivant. Comment vous dire? Bon, d'abord sur le synopsis, hein. La série suit une enquête du service de police d'Irlande du Nord sur une série de meurtres récents. Après 28 jours d'investigation sans résultat, la police nord-irlandaise fait appel à la superintendante Stella Gibson de la Metropolitan Police Service pour réexaminer le dossier sous un œil nouveau. Sous son commandement, la police locale doit traquer et arrêter un tueur en série, Paul Spector, qui s'en prend à des jeunes femmes de Belfast, toutes brunes, jolies, indépendantes, financièrement, et ayant mené de belles carrières. L'une en réchappe, mais ne se souvient de rien. Un jeu du chat et de la souris s'instaure alors entre la policière et le tueur. Donc, nous avons affaire à une flic rigoureuse, une flic secrète, et solitaire, qui traque sans relâche un tueur en série, prédateur sexuel, qui s'en prend à des jeunes femmes à Belfast. The Fall pourrait être un énième thriller, mais cette série, lente et prenante, opte pour une narration originale. En fait, un va-et-vient où l'on passe autant de temps avec l'enquêtrice Stella Gibson, qui est interprétée par la délicieuse Gillian Anderson.
Ah oui,
vous rappelez, X-Files.
X-Files, bien sûr.
Course. Voilà. Qu'avec le criminel Paul Spector. Paul Spector, il est interprété par Jamie Dornan, alors qui a fait succès évidemment avec 50 degrés de Grey.
Ouais, c'est ça. 50 nuances, hein.
50 nuances
50
de
degrés, ça dépend. Ça. Mais ça, ouais. Ça a provoqué 50 degrés chez beaucoup de monde,
c'est ça, c'est ça. Voir 100 degrés pour,
ouais,
pour
ça.
Beaucoup.
Ouais,
ça a... ouais. Effectivement, c'est ça. Donc, leur confrontation à distance est d'une étrange séduction. Les acteurs jouent bien, c'est indéniable. Ils sont intenses. Et pourtant, paradoxalement, ils manquent d'expressivité. C'est mon petit bémol sur ce plan.
D'accord.
Je trouve que, voilà. Je sens que, voilà, ils pourraient être plus expressifs dans leur jeu, mais c'est personnel.
Ouais, bien sûr.
Autre originalité. Tous les titres des épisodes sont tirés du célèbre Paradis perdu de John Milton. Un poème épique et religieux du XVIIe siècle, une sorte de divine comédie du puritanisme, qui était déjà cité dans Seven, je ne sais pas si vous vous rappelez de David Fincher. The Fall, la chute, raconte l'histoire de ce basculement des fantasmes violents du meurtrier à ses crimes. Je cite son réalisateur Alan Kubit qui dit « L'essentiel sont les personnages et leur psychologie, pas le suspense ». C'est une série aussi féministe. Ne qualifions pas les victimes d'innocentes. Que se passe-t-il s'il tue ensuite une prostituée ou une femme qui rentre chez elle tard dans la nuit, saoule, en mini-jupe? Seront-elles moins innocentes et donc moins méritantes, plus coupables? Les médias adorent diviser les femmes en deux catégories, les vierges et les vamps, les anges et les putes. Ne les encourageons pas. Dixit, je viens de citer en fait une phrase que dit, enfin toute une petite tirade que dit l'héroïne, hein, Stella Gibson. Je cite les Inrock. Stella Gibson, donc deux points ouvrez les guillemets, hein, Stella Gibson est tout aussi apprêtée qu'intelligente, courageuse et efficace. Contrairement aux autres héroïnes de séries policières, Sarah Linden par exemple dans The Killing en tête, hein, Stella Gibson ne paye pas sa carrière masculine, entre guillemets, par des problèmes psychiatriques ou une vie personnelle inexistante. Elle se fait des amis et des amants à Belfast, où elle est de passage. Elle a une sexualité active et épanouie. Ne s'en cache pas, et surtout, ne s'en excuse pas. Elle n'hésite pas à inviter dans son lit un homme qu'elle vient de rencontrer pour refuser de le revoir par la suite. Même quand elle est confrontée aux reproches de ses collègues masculins, non contente de traquer les tueurs en série, Stella Gibson combat quotidiennement la misogynie et le mansplaining, ces trop fréquentes situations où un homme explique à une femme d'un ton condescendant qu'elle a tort de penser ce qu'elle pense ou de dire ce qu'elle dit. D'apprécier des coups d'un soir ou de fréquenter des hommes mariés, donc pas de problème pour elle.
Et elle a raison.
Bah oui, voilà.
Attends.
Et pour terminer, Alan Kubit rajoute, elle, donc Stella, ne voit rien de mystérieux dans les actes du tueur. C'est juste de la misogynie, une violence séculaire des hommes contre les femmes. Elle consiste en une violence qui est endémique dans la société patriarcale. Donc voilà les geeks. Je vous conseille The Fall en 3 saisons sur Netflix. Donc voilà, une série vraiment qui passe très très bien, vraiment.
Bah, voilà, écoute, tu l'as
et assez originale.
Et avec donc Gillian Anderson qui est dans un rôle auquel elle nous avait pas forcément nécessairement habitué.
Non, tout à fait, parce que c'est
côté
vrai
froid
que
dans X-Files, par
tout
exemple.
À fait. Alors elle sait cultiver à la fois cette froideur, parfois je te dis à la limite de l'inexpressivité, en même temps elle est émouvante.
D'accord.
C'est ça qui est fort chez elle. Hein.
Ouais, bah.
Elle est quand même émouvante et alors totalement libérée, free quoi, mais fier de l'être et nickel quoi.
Ça me fait penser à, tu sais, j'en parlais en fait, t'étais là, à Tar, que je conseille à ceux qui l'ont pas vu, si d'aventure il était toujours en salle. Mais tu sais le film où joue Kate Blanchett qui était justement nommée parmi où je la trouve exceptionnelle et cette beauté froide dont tu parles, presque comme tu l'as dit à la limite de l'inexpressivité. Mmh. Et dans ce film, je la trouve absolument exceptionnelle parce que justement elle passait par un large spectre, un large éventail d'émotions et elle était, je l'avais trouvée éblouissante. Et j'en faisais ma favorite pour aller grafler des Oscars, mais après avoir vu le génialissime Everything Everywhere All at Once, je comprends pourquoi il a tout raflé.
D'accord. Et alors dis-moi maintenant, je voudrais passer une petite musique là, que tu nous as proposée. Donc c'est de Peel, ou je sais pas si tu prononces.
Ouais, ça doit être Peel, je pense. Ouais.
D'accord. Et ça s'appelle Loops.
Ouais. Ouais. C'est un clin d'œil à un collègue que j'aime beaucoup de mon établissement, donc je l'embrasse s'il m'écoute, il se reconnaîtra s'il a écouté l'émission. Mais voilà, on parle musique de temps en temps, et puis il m'a conseillé, pour que je découvre un peu davantage son univers musical, il m'a conseillé ce titre que j'ai écouté, bien entendu, j'ai fait mes devoirs et j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai trouvé quelque chose. Il y a un côté un petit peu comme tu parlais, tu me l'avais dit tout à l'heure, qui donne le sentiment que ça sature un peu. C'est en même temps rock. C'est vraiment spécial. C'est particulier. J'ai adhéré.
Ça crache. Accrochez-vous les gars. Vous êtes bien dans Bande Geek Mafia sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point, bien sûr.
Si ça veut bien se lancer.
Ça va se lancer, j'en suis sûr, on y croit. Exact, c'est bien. Et voilà. C'était sympa. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, ça fait
plaisir. Ouais, j'ai trouvé vachement sympa, ouais.
Cool.
Effectivement, ça crache un peu au départ,
ouais.
Mais en fait, bien mélodique.
Ça se finit doucement, comme notre émission.
Bon, ben, comme on arrive, ben voilà, comme on arrive à la fin bientôt de l'émission, là, on va faire quelques annonces.
Ouais.
Alors, on n'a pas le temps de trop développer sur le Geek Fest, mais on peut en dire quelques mots.
Ouais, c'est le 1er et le 2 avril 2023, donc ça approche. Et c'est évidemment pour les amateurs de pop culture, manga, e-sport et autres. Voilà, ce sera à Angers, évidemment. Et
tout ce qui est pop culture, du coup, hein, ça tombe bien dans notre émission. Alors, on va y aller. On ira piquer un peu de son, des micro-trottoirs, voilà. Et je pense qu'on, l'émission suivante, on fera un petit rapport.
Évidemment, avec plaisir.
Et alors moi j'annonce aussi que le mercredi dans 15 jours, le 5 avril, c'est ça, le 5 avril, on recevra l'écrivain Kamel Benaouda.
Ah cool.
Qui a publié donc deux livres, hein, deux romans jeunesse. Le premier c'est Norman n'a pas de super pouvoir, qui a eu beaucoup de prix, hein, c'est vraiment sympa, il est publié chez Gallimard Jeunesse. Et là, dernièrement, il a publié LX18. Je vous invite vraiment à le lire. J'aurais bien aimé vous le présenter, mais voilà, on en parlera longuement la semaine prochaine.
Ah ouais.
Deux semaines, pardon.
C'est top.
Ça sera très sympa avec l'auteur directement. Donc, ce sera vraiment l'occasion de découvrir tout ça. Et puis, j'espère de vous donner envie de cette lecture.
Bah, super. Ça nous l'a bien vendu, en tout cas.
Ouais. Bah, écoute, on va se lancer une petite musique, un petit Killing Joke, d'accord? Pour terminer l'émission, rapidement.
Pour dire au revoir, parce que c'est
ça. Et pour dire au revoir. Donc, ça s'appelle Full Spectrum Dominance, et c'est proposé par Seb, à qui on fait encore un
exact.
Gros bisou.
On embrasse tout le monde, on vous dit au revoir, parce que ça se termine, déjà, malheureusement.
Gros bisous. Ouais,
et on vous donne rendez-vous dans 15 jours.
Allez, ciao, ciao.
Bonne soirée. Salut.